Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Pays d'Hérault, RPH Sud, c'est le magazine Vivre Ici qui commence tout de suite. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'association Apedis Hérault en compagnie de Fabienne et Claude Panossian. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors Apedis Hérault, c'est une association d'adultes et de parents d'enfants 10 dont le siège social est à Saint-André-de-Sangonis, au même endroit où se trouve notre studio. Et vous en êtes aujourd'hui les représentants. Donc Fabienne, vous êtes retraitée d'éducation nationale, ancienne professeure de mathématiques et donc présidente de l'association Apedis Hérault. Mais vous connaissez bien Apedis puisque vous êtes dans la fédération nationale qui porte cette association depuis plus de 20 ans. Et vous êtes accompagnée aujourd'hui de Claude Panossian, psychologue clinicien. Vous avez effectué des consultations médico-psychologiques dans le cœur d'Hérault, Centre Hérault, depuis un certain nombre d'années. Et vous êtes secrétaire de l'association. Alors, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter l'histoire de cette association ? Quels en sont les objectifs principaux ?
Cette association s'est ouverte en 2022 sur Saint-André. Et les objectifs, c'est surtout beaucoup d'informations pour les familles. C'est aussi les accueillir, faire des réunions de parents pour qu'ils puissent exprimer tout ce qu'ils ressentent. D'autres objectifs, c'est de les soutenir au niveau de la parentalité, mais aussi de les soutenir pour l'école, avec les explications de tous les troubles qui peuvent exister et des moyens que l'éducation nationale met en place pour les aider au niveau scolaire. On les aide aussi dans les démarches auprès de la maison départementale de l'autonomie et du handicap, la MDPH, pour quelquefois faire un dossier de situation de handicap.
Alors avant de poursuivre, je vous propose juste un petit point définition. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que sont les 10?
Alors, il y a plusieurs types de 10. Le plus connu, c'est celui qui s'appelle la dyslexie, qui est donc un trouble sur le lexicage, sur la lecture, qui souvent débouche sur de la dysorthographie, donc des problèmes d'orthographe. Pourquoi ? De la dysgraphie aussi, c'est-à-dire un graphisme mal établi, et quelquefois ça peut aller jusqu'à de la dyscalculie, c'est-à-dire des difficultés au niveau du calcul, de l'interprétation logique des choses. Ensuite, vous avez ce qu'ils appelaient avant la dysphasie, qui est un trouble de la communication, donc de l'oralité du communicant, et la dyspraxie, qui est un trouble sur le geste, de l'automatisme du geste. On n'a pas forcément tous les troubles. Et puis, il y a le TDAH, qui actuellement prend beaucoup d'ampleur, qui est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Alors, est-ce que vous pouvez, chacun de vous, selon un peu votre expérience professionnelle, nous expliquer comment vous accompagnez les parents qui viennent vous voir ?
Eh bien, on met en place des rencontres de parents avec la présence de la présidente et de moi-même en tant que psychologue clinicien. Ces rencontres permettent aux parents d'exposer leurs difficultés dans l'intégration au niveau de l'éducation nationale, leurs difficultés aussi en tant que parents, dans les prises en charge multiples, la façon de s'organiser pour essayer d'aider son enfant à être, j'allais dire, le plus adapté au scolaire. Et donc, il y a des informations que nous donnons lors de ces réunions. Ce qui est important aussi, c'est que les personnes qui viennent peuvent s'exprimer sans être jugées, parce que ce sont des pères, ce sont d'autres mamans, d'autres papas qui s'expriment. Et donc, il y a une sorte de rapport de confiance qui fait que c'est important pour elles de dire ce qu'elles vivent. Et très souvent, ce sont vraiment des situations de grande détresse, et parfois même vécu comme une maltraitance de la part du système, j'allais dire, éducatif ou administratif. Donc ça, c'est une chose. Et après, on a mis en place aussi des permanences où là, on reçoit les personnes individuellement, parce que tout le monde ne peut pas exposer toutes ces difficultés en grand groupe. Et là, donc, c'est une façon d'exposer ces difficultés, j'allais dire, familiales, personnelles, mais aussi, j'allais dire, très, très précises au niveau du rapport avec l'éducation nationale et la MDPH. Et de là, on intervient donc dans la mise en place de dossiers, dans le fait qu'on arrive à les aider à remplir un dossier MDPH, ce qui n'est pas facile, de faire connaître leurs droits et de leur donner les moyens de mettre en œuvre, d'obliger, j'allais dire, les partenaires à mettre en œuvre ce qu'il faut pour leur enfant qui est porteur d'handicap, puisqu'il a été reconnu en général comme porteur d'handicap. On est aussi en relation avec, j'allais dire, tous les réseaux de soutien à la parentalité, dans tout le cœur d'Hérault, que ce soit les communautés de communes de Vallée d'Hérault ou du Clermontais. Ça, c'est important d'être avec tous les partenaires. Et on a aussi une fonction de vigilance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a les droits qui ne sont pas respectés ou qu'il y a des choses qui se mettent en place qui ne vont pas, j'allais dire, dans le sens de l'intérêt des enfants handicapés et des parents. Ben, on arrive à faire des actions, j'allais dire, militantes pour faire en sorte que les partenaires soient dans les clous, quoi.
On fait aussi cette aide pour les dossiers MDPH de manière très suivie. Hein. Et je peux aller jusqu'à des recours. Je suis allée jusqu'au rectorat pour accompagner des familles. Et ça m'est arrivé d'aller aussi avec les équipes de suivi pour que les parents puissent s'exprimer sans être dans une espèce de tribunal.
L'accompagnement que vous proposez, les temps de rencontre sont ouverts absolument à tout le monde, peu importe notre avancée en fait
de la révélation de la révélation. Oui, c'est pour ça que la plupart des réunions s'intitulent difficultés d'apprentissage. Mais là aussi, il y a un problème, j'allais dire, tous les parents ne sont pas à égalité. S'apercevoir que son enfant a des difficultés d'apprentissage, il faut avoir quelques repères quand même. Hein. Parce que ça peut venir assez tôt, dès 2 ans, 3 ans, dans l'acquisition du langage, dans la façon d'apprendre ou de ne pas apprendre les retards qu'il peut y avoir. Il y a des gens qui sont alertés, des gens qui ne sont pas alertés. Donc là, déjà, ça fait une discrimination. Après, c'est par rapport à l'école aussi, savoir comment on entend ce que renvoient les maîtresses ou les maîtres des difficultés de l'enfant. Donc, on peut intervenir très tôt et les parents peuvent venir aux réunions, même s'ils ne sont pas vraiment dans un processus avancé, quoi. Simplement pour avoir une information et parfois être sécurisé ou rassuré par le fait que, avant un certain âge, on ne peut pas parler de difficultés réelles. Il faut attendre que l'enfant fasse sa maturation selon son propre rythme. Donc, on est ouvert à tous les parents qui se posent des questions par rapport au développement de leur enfant et de leur accès à l'éducation nationale.
Je pense aussi que beaucoup d'enseignants du primaire sont maintenant quand même très au point sur ces difficultés et donnent une alerte. Le problème, c'est qu'ils donnent des fois l'alerte, mais que les parents ne trouvent pas d'orthophoniste, ne trouvent pas de professionnel de santé pour pouvoir aider leur enfant. Et donc, ça prend du temps.
Quels sont les plus grandes problématiques que vous rencontrez autour des troubles 10, enfin en tout cas dans leur accompagnement, je veux dire?
Déjà des problèmes au niveau de l'école. Souvent, c'est l'école qui révèle le problème de l'apprentissage. Ensuite, il y a aussi le fait que les parents, des fois, sont un peu dans le déni, où ils savent qu'eux ont eu des difficultés, donc ils ne veulent pas voir les difficultés de leur enfant. Et puis, je me rends compte de plus en plus que des parents, au moment du diagnostic des enfants, se rendent compte qu'eux aussi ont un problème. En particulier, là, ils ont aussi des problèmes de TDAH comme leur enfant. Et donc, ils se retrouvent dans des situations où, comment faire, moi qui ai aussi cette difficulté d'organisation, de repérage, de mémoire, pour aider mon enfant.
À quoi doivent faire face en fait les parents?
J'allais dire d'abord sur le fait d'avoir un diagnostic, il faut pouvoir avoir des rendez-vous avec des psychologues ou des psychiatres spécialisés pour faire évaluer son enfant. Alors déjà, vous savez qu'il y a un manque justement au niveau médical, donc il y a des mois d'attente. Et là, on a une discrimination entre les gens qui sont dans des des agglomérations comme Montpellier, des gens qui sont sur un petit village dans le centre Hérault, c'est pas facile. Quand on a une consultation, à un moment donné, quand on arrive à avoir une consultation, qu'il faut y aller. Donc là aussi, il faut s'organiser au niveau, j'allais dire, de l'emploi du temps, de prendre une journée. Donc si les mamans travaillent, si les papas travaillent, c'est pas facile de se déplacer. Si on n'a pas les moyens, c'est compliqué. Donc là, déjà, il y a des difficultés. Il peut y avoir des aides, mais c'est assez compliqué à faire valoir. Après, il y a pour pouvoir justement utiliser tout le dispositif. Là aussi, ce n'est pas simple, ça demande énormément de temps. Déjà, il faut les comprendre, il faut pouvoir remplir les dossiers, interpeller les bonnes personnes, ça c'est important. Et puis après, on se trouve, même quand toutes les choses sont en place pour les parents, à gérer, j'allais dire, un quotidien, j'allais dire, et la semaine de l'enfant, qui est vraiment très compliqué. Parce que quand vous avez une prise en charge par un psychologue, un psychomotricien, une orthophoniste, un ergothérapeute, ça fait des emplois du temps d'un enfant qui sont extrêmement tendus. Donc il y a les déplacements. Comment prendre ça en charge? Donc il y a beaucoup de mamans qui sont obligées d'arrêter de travailler ou qui sont en emploi partiel et certains qui s'épuisent dans ce travail-là d'accompagnement de leurs enfants. Parce que souvent, c'est toujours un peu tendu, c'est parfois conflictuel avec l'école et parfois, ils ont l'impression de ne pas être très compris, y compris par les spécialistes. Nous, on a très souvent des témoignages, justement, dans les groupes des parents qui viennent, d'un état, j'allais dire, d'épuisement, d'incompréhension et un sentiment d'injustice. On pourrait parler, pour certains cas, qu'il y a une maltraitance des parents à travers, justement, cette bataille qu'elles font pour faire reconnaître l'handicap de leurs enfants et sa prise en charge. Il faut aussi entendre qu'il y a des discriminations sociales, j'allais dire, par rapport à ça. L'autre aspect qui apparaît, c'est que c'est un grand classique dans la plupart des réunions et dans la plupart des difficultés que rencontrent les mamans, c'est que ce sont des mamans. Les papas ne sont pas tout à fait en première ligne aussi. Mais ça, j'allais dire, c'est une problématique beaucoup plus large qu'on retrouve parfois dans tous les handicaps. Là, nous sommes dans des handicaps peu visibles, on va dire, puisque ça ne se voit pas. Quand l'handicap est visible, bon, c'est encore plus tragique. Mais c'est pareil, quoi. C'est les mamans qui sont quand même dans ce combat-là. Et effectivement, elles s'épuisent. Et on entend, nous, dans les réunions, des mamans qui ont fait des burn-out, qui se sont effondrées, etc., etc., qui sont elles-mêmes prises en charge psychologiquement ou psychiatriquement. Donc là, il y a vraiment une problématique très importante de santé publique.
Une autre problématique, c'est vous avez une notification, vous avez tout fait. Vous avez une notification pour avoir une aide humaine à l'école. Elle est là, mais elle n'est pas là. C'est-à-dire que des aides humaines, il n'y en a pas assez pour le nombre d'enfants qui devraient être inclus et suivis par une AESH. Donc ça pose un problème. C'est vrai que l'éducation nationale n'ayant pas ce personnel, la notification ne peut pas être mise en place. Et ça, c'est un gros problème parce qu'un enfant qui n'a pas cet accompagnement pendant 2 mois, 3 mois, eh bien, va perdre beaucoup de son année, beaucoup de confiance en lui. Il est seul et pour la maman, c'est la catastrophe aussi.
Eh bien, Fabienne, Claude, merci beaucoup d'être venu présenter votre association. Si on veut venir vous rencontrer, quels sont les différents moyens pour vous contacter ou venir aux événements que vous organisez?
Alors, j'ai un site qui s'appelle apedicero.fr. Il y a un numéro de téléphone.
Alors, le numéro de téléphone de notre association, c'est le 07 81 32 41 78. 07 81 32 41 78. Mais il faut aussi savoir que nous avons des rapports de partenariat qui sont excellents avec les centres communautés d'action sociale, notamment Mosaïca sur Saint-Anne-Saint-Gonis et l'Échappée sur Clermont-l'Hérault.
On a aussi une adresse mail. Je réponds à énormément de mails, une centaine à peu près par an, qui est aapedys, donc aapedys.hero@gmail.com. Il ne faut pas hésiter à laisser un message.
Vous retrouverez sur le podcast de cette émission, sur notre site internet, tous les contacts que vous venez de nous donner. Un grand merci à vous, Fabienne, Claude, et à bientôt sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Merci de nous avoir invités.
Merci.